Alors, je vous invite à prendre vos Bibles, trouver le livre d'Apocalypse, chapitre 18. Et nous allons lire à partir du verset 9. Apocalypse, chapitre 18, verset 9. La semaine dernière, nous avons vu la chute de Babylone, Babylone politique et commerciale. Et ce matin, nous allons voir la réaction des gens sur la terre en ce qui concerne face à cette chute. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons voir la réaction au ciel. Alors, lisons notre texte au verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une heure, une seule heure est venue en jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de santal, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux. En airain, en fin, en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront « Malheur, malheur !» La grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés. Et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Ils jetaient de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient, disaient, malheur, malheur! La grande ville où se sont enrichis par son opulence, tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. Et vous savez, en lisant ce texte, je me suis posé une question. Pourquoi les gens pleurent? Les sondages révèlent qu'en moyenne, une femme pleure 5 fois par mois. Et 85% de ces femmes m'ont dit qu'elles se sentaient mieux après qu'elles avaient pleuré. Bravo, chapeau, mesdames. Les hommes pleurent en moyenne une fois par mois. Et je me suis posé la question, mais pourquoi nous, les hommes, pleurons si rarement? Vous savez que même à un très jeune âge, on va nous dire aux garçons, les grands garçons ne pleurent pas. Alors arrête de broyer. Et pourtant, la Bible est remplie d'exemples d'hommes, et oui, d'hommes de Dieu, qui ont pleuré. Des hommes tels que Abraham, Jacob, Joseph, une vraie Madeleine. Dans le livre de Genèse, 7 fois, à 7 reprises, on va lire que Joseph a pleuré. David, Ézéchias, Néhémie, Job, Jérémie. Et dans le Nouveau Testament, nous avons les exemples de Pierre, de Paul, de Timothée et l'exemple suprême de tous, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et leur motivation, qu'est-ce qui a motivé ces personnes à pleurer? Mais nous avons tristesse. Quelques-uns ont pleuré des larmes de joie. D'autres, c'était à cause de la compassion. Mais vous savez que toutes les larmes ne sont pas nécessairement authentiques. Je pense ici à Saül, le roi dans 1 Samuel 24. Saül a pleuré en guise de repentance d'avoir vouloir tuer David. Mais dans 1 Samuel 26, deux chapitres plus tard, il repart à la chasse à l'homme. On appelle ça des larmes de crocodile. Un peu comme ce petit garçon qui avait perdu sa mère dans le maïs et qui pleurait à chaudes larmes. Et pour le consoler, les passants lui donnaient des 5 sous, des 10 cents, des 25 cents. Et à un moment donné, un employé d'un magasin a dit, « Hey, tu peux arrêter de pleurer, mon petit. On a retrouvé ta mère. » Sur quoi il a répondu, « Chut, pas si fort. Business is good. Les affaires vont bien. » Alors, il est possible de pleurer quand on ne le devrait pas le faire. Et vous savez, il faudrait aussi ne pas pleurer quand on devrait le faire. Quand était-ce la dernière fois que vous et moi, quand nous avons versé des larmes, que c'était à propos du salut ou du sang de nos contemporains? Mesdames, parmi ces 5 fois que vous êtes supposés de pleurer pendant le mois, combien de ces fois étaient pour justement le salut d'un inconverti? Et nous les hommes, quand nous avons pleuré cette une seule fois, est-ce que c'était à propos de ceux qui se perdaient? Vous savez, Jésus-Christ a vu la vie de Jérusalem. La Bible nous dit qu'il était ému de compassion. Et le Christ, le Fils de Dieu, a versé des larmes. Parce qu'il était conscient justement du châtiment de Dieu qui allait s'abattre sur cette ville à cause de l'incrédulité de ses habitants. Et ce matin dans notre texte, nous avons vu les gens qui ont pleuré, mais pour des mauvaises raisons. Et des raisons qu'il ne faudrait pas imiter. Alors dans un premier temps, on va voir ces lamentations. Et les lamentations vont nous révéler des choses plus profondes, des choses qui étaient dans le cœur de ces personnes. Et si vous gardez votre texte, dans un premier temps, ces lamentations ici, avec ce premier groupe de personnes, les rois de la terre, leur plan, leur gémissement nous révèle ce qu'ils avaient dans le cœur, la corruption. Il y avait un cœur qui était corrompu. Regardez votre texte, si vous voulez, au verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on s'identifie bien ces rois. Dans l'Apocalypse chapitre 17, pas besoin d'y tourner, mais nous voyons des rois, 10 rois qui ont de l'autorité pendant une heure avec la bête. Et le texte nous dit qu'ils vont donner leur puissance et leur autorité à la bête. Alors, fort probablement que le système de ce dernier empire mondial, c'est l'Antichrist qui règne en chef suprême. Et nous avons 10 rois, des subalternes, qui vont l'aider à administrer justement toute la terre, le royaume. Et vous savez, comme nous dit souvent, que Satan, c'est un maître d'imitation. Parce que pendant le millénium, Jésus-Christ va régner de Jérusalem, et vous et moi, nous allons aussi l'aider à administrer son royaume. Il y a un texte qui nous dit que nous allons régner avec lui. J'aimerais, en considérant ces rois, vous faire remarquer 3 choses. Dans un premier temps, leur responsabilité. de responsabilité devant Dieu. Romains chapitre 13 nous dit que les autorités qui existent ont été instituées par Dieu et que le magistrat, celui qui est en pouvoir, est le serviteur de Dieu pour ton bien. Alors Dieu a placé des autorités et il veut que les autorités soient justes et qu'ils soient aussi ceux qui utilisent leur autorité pour le bien de leurs citoyens. Ça, c'est justement le plan de Dieu et la responsabilité des autorités. Et c'est ce que aussi Dieu voulait pour ses rois, parce qu'il a permis justement qu'ils soient en position d'autorité, qu'ils accèdent au pouvoir. Comment ces rois ont-ils réagi? Et dans leur réaction, on va le voir dans leur relation avec Babylone, on voit comment est-ce que ces rois justement ont réagi avec le pouvoir qu'ils détenaient. Le texte nous dit qu'avec cette vie ou ce système qui va exister à la fin du monde, ils se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe. Et nous avons vu qu'ici, il s'agit d'une débauche spirituelle, l'idolâtrie. Et dans le cas de ces rois, le pouvoir qu'ils détenaient était devenu justement leur idole. Le texte nous dit qu'ils sont livrés avec Babylone à la débauche. Et le pouvoir, justement, avait pris dans leur cœur la place de Dieu. C'était leur idole. Et pourriez-vous imaginer le pouvoir qu'ils possédaient? Je vous ai fait rappeler tantôt que ces rois-là font partie d'un empire mondial puissant, le plus puissant que le monde ait jamais connu. Et ils font aussi partie d'une règne de terreur. Ils ont le droit de vie ou de mort, ceux des millions de gens. Et vous savez, pendant ce règne-là, il va y avoir des personnes qui vont être tuées pour leur foi. Et combien c'est facile pour les personnes qui détiennent le pouvoir d'être corrompues par le pouvoir. Il y a un dicton qui dit « Le pouvoir corrompt, mais le pouvoir absolu corrompt totalement. » Et ces rois-là vont avoir cette pensée dans leur cœur qu'ils sont invincibles. Dans chapitre 17, nous les voyons avec l'Antichrist, la bête, se rassembler pour faire la guerre. Il faut le faire, alors, pour faire la guerre à l'agneau. Et vous savez qu'on ne va pas en guerre contre un ennemi si on n'est pas convaincu de gagner. Alors ces rois-là sont convaincus justement de leur pouvoir absolu. Et on va justement voir que ce pouvoir-là les a toutes saisies, corrompues. Et nous avons des exemples aussi de cela à travers l'histoire. En Allemagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale, plutôt, sous le règne de Hitler, il y avait des gens qui étaient corrompus par le pouvoir. Au Cambodge aussi, avec les Khmer Rouges, un autre système là aussi, les gens qui étaient corrompus aussi par le pouvoir. Et nous avons ici dans ce texte ici ces rois qui mettent leur confiance dans le pouvoir. Alors nous avons leur responsabilité, mais nous voyons aussi que les gens qui prennent justement le pouvoir et ils sont corrompus dans le pouvoir. Et troisièmement, leur réaction. Le texte nous dit que quand Babylone va chuter, quand Babylone va être en proie des flammes, ces rois-là vont se lamenter, ils vont pleurer. Et le texte nous dit qu'ils vont se frapper la poitrine. Ça, c'est le sens du mot « se lamenter ». Ils vont se frapper la poitrine. Ils se tiendront éloignés et diront « Malheur, malheur, Babylone, la ville puissante ». Et remarquez bien où est-ce qu'ils vont focaliser. La ville est en proie des flammes. Et le cri qui vient de leur cœur, c'est « Babylone, Babylone, la ville puissante, en une heure, est venu ton jugement. » Voilà leur réaction. Mais arrêtons un peu pour réfléchir au contexte justement de ce qui se passe ici. Dieu vient de frapper la terre avec la septième coupe, une coupe dévastatrice. Il a secoué le monde avec un tremblement de terre. Le texte nous dit que le plus grand de toute l'histoire de l'humanité. La terre a été secouée jusqu'à ses fondements. Jérusalem a été divisée en trois parties. Les villes des nations sont tombées. Imaginez New York, Beijing, Tokyo, toutes ces villes-là tombées en ruine. Babylone non plus n'a pas été épargnée. La Bible nous dit qu'il y a une grosse grêle qui pèse à peu près 50 kg qui sont tombées sur les hommes. Et vous pouvez imaginer justement la mort. Des centaines de milliers de personnes qui sont mortes à cause de cela. Et qu'est-ce que nous avons dans ce contexte ici? J'aimerais vous dire que nous avons ici une crise humanitaire à l'échelle planétaire. Partout, il y a la mort, et la famine, et la souffrance incroyable. Qui va apporter de l'aide à ces personnes? Qui va secourir ces gens? Qu'est-ce qu'on voit les rois qui sont en train de faire? Malheur, malheur. Non pas à cause de la souffrance, mais malheur parce que Babylone, la ville puissante, la ville qui leur donnait leur pouvoir et la ville qui leur donnait leur autorité, avait été détruite. C'est pourquoi ils vont crier malheur, malheur. Et ce sont les gens ici qui sont indifférents. Indifférents aux besoins des autres. Aveuglés par leur position et le pouvoir qui l'accompagne. Et j'écris dans le texte, sont aveuglés par la royauté. J'aimerais vous poser une question ce matin. Si vous êtes patron, vous savez, vous avez une position d'autorité. Vous avez du pouvoir. Mais comment est-ce que vous utilisez votre pouvoir? Si vous êtes parent, vous avez aussi de l'autorité. Mais comment est-ce que vous utilisez votre pouvoir, votre autorité? Et surtout aussi, en étant parent, si vous êtes père, vous avez du pouvoir. Comment est-ce que vous êtes en train d'exercer votre pouvoir, votre autorité au sein de votre famille? Est-ce que vos enfants vous voient comme un petit roi dans le foyer auquel il faut obéir aux premiers ordres? Vous savez, avec une position d'autorité vient une position de responsabilité. La Bible nous dit que ceux qui sont en autorité, surtout dans la famille, ont la responsabilité de pourvoir aux besoins de la famille, responsabilité de protéger aussi la famille, responsabilité aussi envers, et je parle aux hommes, à votre épouse, pourvoir à ses besoins matériels, pourvoir à ses besoins émotionnels, et surtout ce besoin de se sentir aimé de façon inconditionnelle. Et qu'importe ce que Hollywood dans ses films va nous démontrer, un vrai homme, ce n'est pas un homme qui utilise son pouvoir pour abuser les autres. Un vrai homme, c'est un homme qui utilise son autorité et son pouvoir pour servir les autres. Un peu comme Jésus-Christ. On chante, hein, roi, serviteur. Et nous avons l'exemple suprême de quelqu'un qui était roi. Quelqu'un qui avait le pouvoir, l'autorité, mais qui a utilisé son autorité et son pouvoir pour faire du bien aux autres. Et qui était justement concerné par la souffrance des autres personnes. Et vous savez, cette autorité qu'on utilise, la façon dont on utilise, je me demande et je me suis posé la question. Quand Jésus va revenir, il va donner l'autorité aux chrétiens. Nous régnerons avec Christ. Est-ce qu'il va nous donner l'autorité sur une ville, sur 5 villes ou sur 10 villes? Je me suis posé la question, est-ce que la façon dont j'utilise le pouvoir et l'autorité que le Seigneur me donne aujourd'hui va avoir des répercussions pour l'éternité? Il faut y réfléchir. Deuxièmement, nous avons les lamentations de la destruction de Babylone qui nous révèlent non seulement la corruption des rois, mais dans ce texte aussi, nous avons la convoitise des marchands. Un deuxième groupe de personnes là, il y a des rois, mais aussi des marchands. Et nous voyons aussi dans ce que ces larmes qu'ils ont versées qui vont révéler la convoitise des marchands. Et si les rois sont aveuglés par le pouvoir et ne font absolument rien pour aider les gens qui sont là et se lamentent parce que la ville puissante, leur source de pouvoir, n'est plus, mais les marchands, eux, sont aveuglés par les richesses et les possessions. Regardez votre texte, si vous voulez, au verset 11. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, etc., etc. C'est pourquoi ils pleurent. Personne pour acheter maintenant leur cargaison. Si vous regardez au verset 15, les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés. Remarquez bien ce que le texte dit, les marchands qui se sont enrichis par elles. Si vous regardez au verset 16, ils diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, etc., en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Alors, qu'est-ce que nous savons à propos de ces marchands? Mais le texte nous dit qu'ils sont riches. Et vous savez, la responsabilité de ceux et celles qui sont riches, c'est de partager avec ceux qui en ont moins. C'est un principe fondamental dans l'économie de Dieu. Job, qui était un homme extrêmement riche, a dit ceci. Je vous cite un texte. « Je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin ne manquait pas d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi et je remplissais de joie le cœur de la veuve. » Ça, c'était Job, un homme riche, mais qui a su justement partager ses biens avec les pauvres. « Les enfants d'Israël durent leur vie quand vous serez dans le pays de Canaan, pays où coule le lait et le miel, et je vous aurai béni, vous avez une responsabilité. Quand tu moissonneras ton champ et tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger et l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. » Et dans le Nouveau Testament, Paul va exhorter Timothée à recommander aux riches d'avoir de la libéralité, de la générosité. Et Jacques va reprendre sévèrement les riches de son époque parce qu'ils avaient fait une mauvaise utilisation de leur richesse. Il va leur dire ceci, « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. » Il va étaler justement une liste de choses qui démontrent qu'ils avaient fait une mauvaise utilisation de richesse. Et ça, c'est la responsabilité de ceux qui ont plus, c'est de partager avec ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui ont plus que ce dont ils ont besoin pour vivre. Comprenez-moi bien. Et pourquoi est-ce que c'est ainsi? Parce que toute richesse vient de Dieu. Les psaumes nous disent ceci, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Alors tout ce qui est dans ce monde, Dieu est le propriétaire, ça lui appartient. Et puisque Dieu est bon et généreux, ceux qui ont été bénis justement avec des richesses, qui ont plus que ce dont ils ont besoin pour vivre, Dieu s'attend à ce que ces personnes-là agissent comme lui aussi il agit. Dieu est bon et généreux. Deuxièmement, remarquons la relation des marchands avec Babylone. La relation avec Babylone. Le texte nous dit qu'ils se sont enrichis par elle. Et les versets 12 et 13 va donner une liste de 29 objets de luxe, des gros luxes même, que ces personnes-là étaient en train de vendre. Et le temps ne nous permet pas de commenter chaque objet, chaque produit individuellement, mais remarquez une chose ici, qu'à la fin de cette liste, nous avons les corps et dames d'hommes. Il y a des commentateurs qui nous disent que est-ce qu'ici, il s'agit justement d'un trafic d'hommes, une renaissance peut-être de l'esclavage, ou bien c'est l'exploitation des gens, probablement des pays du tiers-monde, mais qui sont exploités pour un travail justement bon marché. Ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. Mais ce que nous avons ici, là, il y a des personnes qui sont riches, qui ont un appétit pour les choses luxueuses et qui sont prêts justement à exploiter des pauvres, ceux qui sont moins favorisés, justement pour pourvoir à leurs besoins. Et ça, ce n'est pas nouveau. Si vous étudiez l'histoire de l'Empire romain, vous allez voir la même chose. Cet empire-là, où est-ce qu'à un moment donné, il y avait le slogan « du pain et des jeux », était basé justement sur l'exploitation des esclaves. Il y avait une demande ici en Babylone, une demande pour des produits de luxe, et les marchands ont su profiter de cette demande pour remplir leurs poches, même aux dépenses des semblables. Ça, c'est leur responsabilité, on a vu aussi leur relation, mais considérons maintenant leur réaction. Comment est-ce qu'ils vont réagir quand cette ville a été détruite? J'aime beaucoup la version parole vivante. Et je vous lis ce que ce texte nous dit. Les marchands de la terre se désolent et pleurent sur elle, car désormais il n'y a plus personne pour écouler leur stock de marchandises, leur cargaison d'or, d'argent, etc. Hélas, il s'est envolé bien loin de toi le bon temps où tu pouvais satisfaire, écoutez bien, tes instincts et tes passions. Les produits que convoitait ton âme sont maintenant hors de ta portée. Luxe et clinquant, élégance et splendeur, toutes ces choses exquises et brillantes te sont ravies. C'est fini pour toujours. Ainsi se lamenteront les marchands. Les voilà atterrés, pleurant et gémissant. Quel malheur, quelle calamité. En une heure, tant de richesses ont été détruites, toutes, et dévastées et rasées. Et ça, c'est la réaction des marchands. Pleurent, gémissent. Encore une fois, non pas parce qu'il y a des gens dans Babylone qui sont morts, il y a le deuil, il y a la famine, il y a la souffrance, mais parce que leur source de richesse. Et vous allez remarquer que dans le texte, ils ont focalisé sur la ville qui est prospère. Tant de richesses a été détruite. Pour les rois, c'était le pouvoir, la ville puissante n'est plus. Pour les marchands, c'est la ville prospère qui n'est plus. Et là, ici, maintenant, ils ont pris avec ce qu'on appelle les stocks toxiques. Vous savez, dans notre assistance ce matin, s'il y a des Bill Gates ici ou des Oprah Winfrey, votre responsabilité, c'est de partager vos biens avec ceux qui sont dans le besoin. Je vous lis le texte d'un Timothée encore. Recommande aux riches de présent siècle, de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Nous recommandons l'un de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Mais est-ce que c'est possible qu'on n'ait pas des Bill Gates, on n'ait pas des Oprah Winfrey? Mais on aimerait devenir Bill Gates. On aimerait devenir des Oprah Winfrey. Et ne me méprenez pas ici. Je ne parle pas de ceux qui vont travailler honnêtement pour gagner leur vie, pour subvenir aux besoins de ceux de leur famille. Ça, c'est louable. La Bible, justement, recommande le travail et la Bible va condamner la paresse. Mais quand on parle ici de ceux qui veulent s'enrichir, c'est de ceux qui cherchent à en avoir plus et encore plus et encore plus. Et la parole de Dieu a des choses à dire à propos de cela. Je vous défile. Vouloir s'enrichir, c'est un piège. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Les richesses sont incertaines. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, Proverbe 23. N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Et combien c'est vrai dans le contexte économique dans lequel on vit actuellement. On a parlé de la caisse de dépôt, le bas de laine des Québécois. 50 milliards de dollars, littéralement, qui se sont envolés dans l'espace de moins d'un an. Les richesses sont incertaines. Les richesses donnent une fausse sécurité quand il s'agit des choses spirituelles. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et les proverbes nous enseignent qu'il y a des choses qui sont plus importantes que la richesse. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Et nous avons une prière dans les proverbes d'un homme qui a dit ceci, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Et ça, c'est un équilibre à chercher. Et vous, dans votre cœur, vous savez ce dont vous avez besoin pour vivre. Je ne suis pas ici pour culpabiliser quoi que ce soit, mais je vous mets en garde, justement, parce que je vois dans ce texte ici des personnes qui avaient des convoitises dans le cœur. Et quand il y a eu des choses qui ont bouleversé leur vie, on voit leur réaction, ils pleurent, ils se lamentent. Mais pas pour les bonnes choses, pas pour les bonnes raisons. Et cinquièmement, il y a un autre type de richesse, non périssable, à l'abri des voleurs, à l'abri aussi justement des crashs des marchés boursiers, qui payent des dividendes assurés et pour lequel il n'y a pas de plafond. Vous pouvez en ramasser autant que vous voulez. Même plus que vous en avez, mieux c'est. Jésus a dit ceci, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où le teigne, où la rouille détruise, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et je termine avec ce troisième point. Les lamentations de la destruction de Babylone nous réveillent l'orgueil des marins. Il y a un troisième groupe de personnes ici. On a vu des rois, on a vu des marchands, et on sait maintenant des marins. Verset 17, tous les pilotes, tous ceux qui naviguent sur ce lieu, etc. Et eux aussi sont bouleversés par la chute de Babylone. Et dans leur relation avec Babylone, j'aimerais vous faire remarquer trois choses. Ils vont pousser un cri. Et dans le cri, nous avons leur admiration. Quelle ville était semblable à la grande ville. Ça, c'est leur admiration. Et vous savez, dans Apocalypse chapitre 13, il y a des habitants de la terre aussi qui vont dire la même chose. La bête vient sur la scène. Satan lui donne son autorité, une grande puissance, et le monde émerveillé vont dire, qui est donc semblable à la bête? Le monde est en admiration. Même chose ici, avec cette ville luxueuse, le monde est en admiration. Quelle ville est semblable à la grande ville? Dans leur esprit, la réponse, évidemment, c'est aucune ville. Aucune ville qui peut se comparer à Babylone. Et il y a aussi leur sens d'appartenance. Pourriez-vous imaginer l'honneur, le prestige de faire du commerce avec la ville la plus renommée au monde? Si je vous dirais là, que je fais du commerce avec les gens de New York, de Londres ou de Paris, et après, je vous dis, mais non, je fais du commerce avec des gens de Trois-Rivières, Rivière-du-Loup, de Rimouski. Comment allez-vous me considérer? Dans le premier cas, comme quelqu'un de très important, peut-être. En deuxième cas, moins important. Pourquoi? Parce que Londres, New York, Paris sont des villes prestigieuses. Plus que Rimouski ou Cap-la-Madeleine ou Trois-Rivières, etc. Et troisièmement aussi, nous avons un amour pour cette ville ici. Vous savez, j'ai un T-shirt à la maison, c'est écrit « J'aime New York ». Il y a un cœur ici, un gros cœur, « J'aime New York ». Et ça, c'est un slogan qu'on justement utilise pour dire aux gens « New York, c'est une ville où ce qui fait bon vivre ». Et qu'est-ce qui attire des gens justement vers des villes? Mais c'est ce qu'ils peuvent faire, ou bien ce qu'ils peuvent voir. Il y a un style de vie qu'on associe avec des villes. Et quand on voit les slogans comme « J'aime New York » et ainsi de suite, c'est du marketing justement pour montrer qu'il y a un style de vie qui est là, qui est à rechercher. Et pouvez-vous imaginer ce que Babylone, cette ville ici qui est incomparable, quelle ville était semblable à cette ville, avait offert justement à ces marins ici, ces personnes qui avaient passé justement des semaines ou des mois en haute mer et qui arrivent à cette ville ici, luxueuse, il y avait justement ici un style de vie extraordinaire. Et dans le cri, quelle ville était semblable, il y a aussi cette pensée, j'aime Babylone, comme on dirait j'aime New York. Et vous savez, après leur relation, il y a aussi leur réaction. La Bible dit qu'ici, qu'ils vont jeter la poussière sur la tête. Ils vont pleurer, ils vont gémir. Et dans la Bible, la réaction, c'est la plus profonde, c'est la plus forte de tous les trois groupes. Parce que jeter de la poussière sur la tête à l'époque, là, c'était un signe de chagrin, de deuil. Justement, la personne était dévastée. Job, au sein de ses souffrances, quand les amis sont allés le voir, ils ne l'ont pas reconnu. Et la Bible nous dit qu'ils ont mis de la poussière sur leur tête. Quand les enfants d'Israël ont été battus à Haï, Josué, les anciens, sont consternés, sont dévastés. Ils se jettent par terre, ils déchirent le vêtement, ils mettent la poussière sur la tête. Et ces gens-là, à cause du fait que Babylone est ruinée, vont faire la même chose aussi. Et l'idée, c'est que c'est comme si on avait arraché de Babylone, de ces personnes, une partie de leur âme. Ils étaient tellement en amour avec ce système, avec ce style de vie, que quand le système n'est plus, quand la ville n'est plus, c'est comme si on les avait donné un coup de mort. Et ils vont pleurer. Et ça boucle le boucle ici devant nous. Nous avons les rois qui sont aveuglés justement par la royauté, la convoitise de la chair. Nous avons les marchands qui sont aveuglés par les richesses, la convoitise des yeux. Mais nous avons aussi les marins qui sont aveuglés par le renom de cette ville ici. Et nous avons ce que la Bible appelle l'orgueil de la vie. C'est cette ville qui leur donnait justement une sorte de prestige. Ils faisaient partie de cela. Et quand ce n'était plus, c'est comme si eux non plus n'existaient pas. En conclusion, deux choses. On devrait se poser la question ce matin, est-ce que je suis aveugle? Et vous savez, si vous êtes ici, vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, la Bible dit que le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors, ceux qui ne connaissent pas Christ comme le sauveur sont aveuglés. Mais vous savez, la bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus-Christ aimerait justement vous ouvrir les yeux et vous permettre justement de voir clair et d'avoir les bonnes priorités dans la vie. J'en parlerai tantôt de cela. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que ceux qui admettent justement qu'ils sont aveugles, et qui tournent vers Jésus-Christ, on appelle ça la repentance. Ceux qui mettent leur foi dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix reçoivent le salut, le pardon de leurs péchés. Et ce matin, sous l'autorité de la parole de Dieu, je peux vous dire que si vous faites cela, vous pouvez partir d'ici en disant, « J'étais aveugle, mais gloire à Dieu, maintenant ce matin, je vois. » Et pour nous qui disons que nous voyons, la question que je me suis posée, que je vous pose ce matin, est-ce que nous ressemblons à ces rois, à ces marchands, à ces marins? Pourquoi dans ce texte ici, on ne lit pas de mobilisation en Babylone? Vous savez, les rois, ils avaient l'autorité pour commander un tel projet. Les marchands avaient l'argent pour financer un tel projet. Les marins avaient les moyens, les bateaux étaient là pour aller chercher les gens. Et qu'est-ce que nous disons? Ils se sont tenus éloignés, paralysés par la peur. Chacun prit avec son propre agenda. Personne qui est allé au secours de ces gens. Vous savez, nous avons, ça a été mentionné ce matin ici, mobilisation 375. Quelle sera notre réaction? Vous savez, nous avons l'autorité. Jésus a dit, allez par toutes les nations, faites des disciples. Et tout pouvoir m'a été donné. Nous avons l'autorité. Nous avons aussi les moyens. Nous pouvons contribuer selon nos moyens de façon financière pour financer des projets. Et nous avons aussi l'argent et nous avons aussi les moyens. On va parler de marché pour Jésus. Aller distribuer justement les évangiles de gens pour que les gens puissent entendre la bonne nouvelle. Et pour ceux qui n'ont pas de bonnes jambes, mais vous pouvez au moins prier et donner et envoyer ceux qui vont y aller marcher. Alors, qu'importe, ne soyons pas indifférents au sort des gens qui nous entourent, nos contemporains, que nous soyons de ceux qui vont s'impliquer justement dans la mobilisation pour annoncer l'évangile à ceux qui périssent autour de nous. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole qui nous enseigne. Nous avons eu ce matin un exemple de ce que nous ne devrions pas imiter, des personnes indifférentes au sort de ceux qui périssaient et qui étaient préoccupées par soit leur richesse, soit leur prestige, soit leur pouvoir. Donne-nous des yeux, Seigneur, de voir comme ton Fils a vu. Il a vu la foule, la parole nous dit qu'il était ému de compassion. Parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Seigneur, nous te demandons de toucher nos cœurs. Fais de nous de ceux qui ont une compassion pour nos contemporains. Ceux qui vont se lever et qui vont aller porter justement cette eau fraîche, cette eau de vie à ceux qui nous entourent. Bénis ton peuple, Seigneur, et bénis ta parole. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.